ce nouvel épisode de Fréquence Diagonale, le podcast du jeu d'échecs francophone. Alors aujourd'hui, on va parler avec un nouvel organisateur du jeu d'échecs en France, et bien c'est Léo Battesti, président de la Ligue de Corse, qui a développé fortement les échecs en Corse maintenant, avec beaucoup aussi d'événements de niveau international, mais aussi beaucoup de développement du jeu d'échecs pour la population corse. On va retrouver Léo Battesti dans son parcours échiquien. Il va nous expliquer maintenant comment, à l'âge adulte, il a repris l'activité du jeu d'échecs alors qu'il avait appris à 14 ou 15 ans et qu'il avait un peu oublié après. Et là, un événement de la vie fait qu'il reprend l'activité, il nous raconte son histoire et puis on va enchaîner ensuite sur eh bien, le jeu d'échecs en Corse, l'histoire de la Ligue de Corse. Et puis ensuite, on verra aussi le calendrier de la Ligue de Corse avec lui. Et tout de suite, on reprend la parole avec Léo Battesti.
Donc à partir de là, je me suis dit, bon, il faut que je m'organise, parce que les échecs, ça va me faire passer le temps. Et j'ai donc acheté pas mal de livres, je me rappelle, en particulier l'amateur, maître contre amateur, je ne me rappelle plus le nom exact. J'avais acheté des revues également, je m'étais abonné, et puis je jouais par correspondance, surtout par correspondance, ce qui m'a permis de progresser, puisqu'on avait le temps de réfléchir, hein. Donc c'est des parties qui duraient plusieurs mois, j'ai fait beaucoup de connaissances d'ailleurs, avec des gens qui jouaient par correspondance, un point tel que beaucoup ont essayé de faire parvenir des livres en prison, malheureusement ce n'était pas possible, et j'ai organisé mon premier tournoi international, là j'étais, après avoir été condamné, j'étais à Centrale de Melun, on avait le quartier politique, et là j'avais organisé mon premier tournoi, le seul d'ailleurs tournoi international que j'ai remporté. On était une vingtaine, il y avait des prisonniers politiques bretons, il y avait des anciens du parapluie bulgare, des espions, il y avait des anciens collaborateurs, ce qui avait été c'est incroyable, c'est vrai que certains s'étaient arrêtés 15 ans après et ils étaient toujours en prison. Donc c'était le premier tournoi que j'ai organisé, il était à Melun, et voilà, c'est le premier et le dernier que j'ai remporté. Et voilà, ça c'est un bon souvenir. Bon, si tant est qu'on puisse parler de bons souvenirs dans ces circonstances, mais quand même, les échecs, je me suis rendu compte, ça m'a vraiment rempli de joie, et c'était passionnant, parce que c'est une activité, on n'a pas besoin d'être nombreux pour jouer, y compris tout seul, on éprouve du plaisir, et ma foi, j'avais un peu progressé, j'étais devenu un joueur moyen, je dirais. Je pense que j'étais d'un niveau au moins égal à celui que j'ai maintenant, où je régresse un peu, mais j'étais pas trop mauvais, voilà, j'étais un joueur de club moyen. Et lorsque je suis sorti, par contre, je n'ai pas eu ensuite tellement de possibilités, parce que j'étais quand même très 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 occupé. Il m'arrivait ponctuellement peut-être de faire une partie par-ci par-là. Et j'ai vraiment redécouvert les échecs lorsque j'ai eu mon premier fils, donc qui avait à l'époque 6 ans, 7 ans, et je vois que ça l'intéressait, il jouait pas mal du tout d'ailleurs, il est devenu meilleur joueur que moi. On jouait, et puis je me suis dit, bien avoir un club, j'étais à Bastia, c'était pas très très connu hein, à cette époque-là. Et puis j'avais vérifié qu'il y avait un club qui s'appelait le Corse Caches Club, qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, et j'ai atterri là. Bon, à l'époque quand j'ai atterri, j'étais conseiller régional, donc j'étais assez connu, même par les joueurs d'échecs, donc je suis arrivé là-bas, j'étais peut-être un peu gêné, parce que j'arrivais avec mon fils, et moi-même je n'ai pas ni osé, ni eu encore la disponibilité pour pouvoir jouer. Mon fils a continué, puis petit à petit, j'ai eu plus de disponibilité, puis j'ai commencé à m'y intéresser, et puis je me suis rendu compte que c'était passionnant, et puis je me suis rendu compte que, surtout, que c'était vraiment un vase clos, c'est-à-dire que les gens étaient passionnés, ils regardaient leurs échiquiers, et je me disais, mais c'est incroyable, cette pratique, ce qu'elle pourrait faire dans la société, ce qu'elle fait certainement. J'avais eu des échos de ce qui se passait un peu à Cannes, de ce qui se passait dans certains pays. J'ai dit, mais pourquoi en Corse, en partant de zéro, de près de zéro justement, on va bénéficier davantage, parce que quand on part de zéro, il n'y a pas certains phénomènes de sédimentation, il n'y a pas des choses que j'ai bien rencontrées dans pas mal de ligues ailleurs, où il y a des vieilles habitudes qui se prennent et qui sont un peu, à mon sens, déconnectées des réalités ou de perspectives de développement. Et là, on est parti vraiment sur un terrain vierge. Et on a construit ça, je tiens à le dire, par rapport à une conception philosophique. C'est-à-dire de considérer que le plus important, c'est de créer la base de la pyramide. C'était la base de la pyramide qui devait être créée, donc l'enseignement pour le plus grand nombre, l'enseignement généralisé, et surtout le lien entre cet enseignement et la structure échiquienne. Et ça a commencé tout petit à Bastia, avec le club de Bastia, qui est monté rapidement en puissance, puisque nous avons d'abord eu 200 ou 300 scolaires sur Bastia. Et là, le club en tout de suite bénéficie, avec pratiquement, c'est presque mécanique, c'est du style 10-15% de ceux qui ont l'initiation des échecs dans les écoles, dès le moment où ils ont un formateur qui sait aussi leur présenter l'intérêt d'aller dans un club, hein, il faut vraiment que le formateur, ça dépend aussi du formateur bien sûr, hein, et le formateur se sent concerné, le formateur, eh bien, il était bon et il a mené des enfants dans les écoles. Et puis petit à petit, on a eu 2 formateurs, et puis 3 formateurs, et on a eu 300, 600, 900, 1000, puis 2000 enfants, et 3000 dans le département, et puis ensuite j'ai conclu des accords avec tout le monde, avec la région, avec les 2 conseils généraux, avec toutes les municipalités. J'ai commencé à avoir des partenaires, et c'est monté progressivement jusqu'à plus de 7000 aujourd'hui. Ça a été constant, c'est toutes les années on augmente d'ailleurs, et toutes les années nous avons de plus en plus de joueurs qui non seulement apprennent à l'école, mais vont dans des clubs, et puis ensuite il y a les parents qui sont venus, il y a beaucoup de parents d'ailleurs qui sont restés, tandis que les enfants, par un phénomène que l'on connaît quand ça arrive à l'âge de l'adolescence, quittent la plupart du temps, sauf si c'est des grosses pointures, mais quittent l'activité sportive. Mais les parents, eux, restent. On a énormément maintenant d'adultes. On a peut-être 10 fois plus d'adultes qu'à l'époque. Et c'est grâce à cette pénétration via le système scolaire, mais surtout en synergie avec les structures échiquiennes. C'est ça qui est remarquable. C'est ce que j'ai essayé de faire passer comme message dans une fameuse campagne électorale qui n'a pas convaincu suffisamment d'ailleurs. Mais je crois que c'est l'avenir des échecs. Il est dans le développement de la base de la pyramide. Et petit à petit, ensuite, bien sûr, on a continué. Et surtout, on a fait de formidables événements. Le premier événement que j'ai fait, important, c'est en 1997. Parallèlement au début au lancement de cette opération dans les écoles, puisqu'on a commencé dans les écoles fin des années 96, et en 97, on a fait le Corsican Circuit, hein, qui en est aujourd'hui à sa 18e édition, oui. Et qui tout de suite a été le tournoi le mieux doté au niveau fédéral, puisqu'il y avait à l'époque, je crois, l'équivalent de je ne sais plus parler en France, je viens de réaliser, je ne sais plus parler en France, je crois qu'il y avait l'équivalent de 40 000 euros, un truc comme ça pour le premier, où on avait eu des gens comme Spassky, on avait eu le jeune Bacro à l'époque, on avait eu Trégoubov qui a été le premier vainqueur du Corsican Circuit. C'était énorme pour nous, nous avons Salof, je me rappelle, il y avait beaucoup de grands maîtres, c'était déjà un événement, et voilà, et puis on est parti là-dessus, et surtout on a fait énormément de tournois en Corse, beaucoup de tournois de blitz, parce que c'est la porte la plus facile à ouvrir, le blitz, les enfants ils viennent volontiers, et puis ils apprennent un peu comme des jeunes footballeurs doivent apprendre à dribbler, ils apprennent, ils ont de la pratique de jeu, et petit à petit ils progressent grâce à ça, et ça s'est développé de manière régulière, de manière importante, hein, par cette pratique-là. Donc voilà un peu, je schématise sur l'historique, hein, mais grosso modo c'est basé donc sur une stratégie, vraiment une stratégie. La première chose que j'avais faite quand on a créé la Ligue, c'est de supprimer les comités départementaux pour avoir une unité territoriale. Et ensuite, le rôle de la Ligue est majeur. Les clubs sont en synergie totale. Les uns avec les autres, ils s'aident. Lorsqu'il y a des événements à Ajaccio, les Bastiais montent, donnent un coup de main, et vice-versa. Les gens de Balagne vont du côté de la région de Porto Vecchio. Tout le monde s'entraide. Il y a énormément de bénévoles. C'est une grande fête. Et c'est des bénévoles, mais c'est aussi une professionnalisation, puisque nous avons commencé à créer les premiers postes à cette époque, j'en parlais tout à l'heure, ce sont tous des salariés CDI, et nous en avons aujourd'hui 18. Oui. 18 salariés CDI, c'est considérable, et ça nous permet chaque année d'intervenir dans le temps scolaire auprès de 8000 enfants. Voilà, ça c'est cette réalité, et la réalité aujourd'hui de la Ligue, c'est donc ces 18 salariés, c'est plus de 7000 licenciés, c'est plus de 400 tournois, je précise là-dessus, 400 tournois qui sont organisés, parce qu'il n'y a pas de petits ou de grands tournois. Nous, tous les licenciés sont actifs. Ils ont tous participé au moins à un événement, et tous ont un classement Elo. On a créé un système Elo Corse qui nous permet, dans le cadre des parties rapides et des parties blitz, d'avoir un classement beaucoup plus adapté que le classement traditionnel. C'est un classement qui commence à 200 points Elo d'abord. Les tout petits, là, ceux qui sont encore préparatoires, ils ont 200 points, 300, les autres 300, 400, 500, etc. Ça monte. Et il est immédiat, c'est-à-dire qu'ils font leur tournoi dans l'école. Le lendemain, ils ont leurs résultats et leur classement qui est diffusé sur notre site corsirechec.com. Ouais. Donc voilà un peu, ça c'est une logique énormément d'activités pour tous les licenciés. Ceux qui vont plus loin, ceux qui vont dans les clubs, ils ont des tournois internes, par exemple, là, donc je crois que c'est demain, après-demain, commence le tournoi interne du conseil.
Alors, on va y revenir. On va y
revenir. Léo. 45, 50 jeunes.
Oui, Léo.
Et moins jeunes qui jouent des parties qui comptent pour la classement fine. Hein.
Léo.
Donc, on a énormément de tournois comme ça.
Oui.
On a une bonne vingtaine de grands tournois de blitz dans toute l'année, avec énormément de prix. Alors, on connaît les plus fameux.
On va y revenir, Léo, si tu veux bien. Tu m'entends? Oui, on va revenir sur ces points-là, puisque. Là, effectivement, donc tu nous as raconté ton parcours et tu as commencé à. On voit bien d'ailleurs hein, que tu es venu sur l'historique de la Ligue de Corse, puisqu'en fait, finalement, cette historique de la Ligue de Corse fait partie de toi. Hein, je veux dire, tu en as quand même été un des acteurs évidemment essentiels. Donc, je dirais, tu nous as presque fait les deux premières parties d'un coup. Mais je voulais revenir sur certains points que tu as dit pour les détailler un peu mieux pour les auditeurs. Parce que je trouve qu'ils sont extrêmement importants, extrêmement intéressants. Tu nous as parlé notamment de 7000 licenciés, c'est effectivement considérable. Est-ce que tu peux nous rappeler le nombre d'habitants qu'il y a en Corse?
310 000.
Voilà.
Donc, grosso modo, il y a 15 fois plus par tête d'habitants de licenciés qu'ailleurs. Et c'est le record mondial. Il n'y a nulle part au monde autant de licenciés. Et c'est une réalité, parce que les gens disent « Ouais, mais les licenciés corse... » Non, les licenciés corse, comme je le disais tout à l'heure, c'est tous des gens qui jouent aux échecs, qui ont un moment d'activité.
Oui.
Et l'activité aujourd'hui en Corse est devenue une activité majeure.
Et oui, parce
majeure,
que là...
C'est-à-dire
là...
qu'elle est, elle fait le titre, elle fait la une des journaux,
oui.
Elle est répercutée dans la presse, dans les, la télévision, etc. Il y a vraiment une très très forte réalité. Je donne d'ailleurs les gens qui ont un métier de venir nous rendre visite, ou même à titre de touriste, peuvent se livrer une simple enquête personnelle. Donc, vous voyez un enfant qui a entre 7 et 20 ans aujourd'hui, vous lui demandez si c'est jouer aux échecs, 90% vont dire qu'ils savent jouer aux échecs. Ils savent pratiquement tous jouer aux échecs.
Oui, alors
c'est ce qui... À un moment donné ou un autre, ils ont rencontré les échecs.
Oui.
Donc, ça vous donne un fond considérable, une logistique considérable. Après, les événements, ça va de soi.
Oui, alors... Évidemment, 7000 pour 310 000 habitants, ça fait environ 1 pour 40. Hein. C'est tout à fait considérable parce que si on regarde la France, on a 64 millions d'habitants et environ 64 000 licenciés en tout. Donc, ça fait 1 pour 1000. Donc,
Et nous avons calculé que nous avons formé plus de 40 000 jeunes Corses depuis la création de la Ligue. C'est le réservoir énorme. Parce qu'ils n'abandonnent pas. Vous savez, on a fait une fois une manifestation au niveau des étudiants. Il y avait des simultanés. J'avais fait ça avec le CNRS il y a quelques années. Il y avait une simultanée avec 3 ou 4 grands maîtres internationaux, avec quelques joueurs forts de Corse. Et il fallait 80 jeunes. Et les organisateurs s'inquiétaient, mais vous êtes sûr, parce que c'était à la base d'une centaine de lycéens qui venaient pour une opération porte ouverte à l'université, je dirais. 100 lycéens qui venaient de première et de terminale. J'ai dit, mais il y a 100, donc il y en a moins de 80 qui savent jouer. Il n'y en avait pas 80, il y en avait 90. Tous les jeunes savent jouer encore aujourd'hui. Hein.
Ouais.
Donc ça, c'est considérable. C'est là qu'on crée une économie chicaine.
Bien sûr.
Si vous ne diffusez pas ce langage chicain, qui va le parler? Uniquement ceux qui se sont accrochés, ceux qui sont très talentueux, c'est l'élitisme et ça n'a aucune perspective au niveau, je dirais, du développement. Ça stagnera forcément toujours. Donc seul le développement de masse relié à une forte structuration chicaine permet d'avoir un sport échec qui soit un sport qui ait de l'audience et qui est une réalité économique.
Alors, ce qui est aussi intéressant, puisque donc, alors tout ceci est assez récent, hein, parce qu'on parle là, évidemment, d'un développement, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a été initié dans les années 96-97, on est à peine, même pas 20 ans après, je veux dire, bon, c'est très très court, si on regarde en France, la Fédération Française des Échecs existe depuis 1924, je crois bien, ou 22, quelque chose comme ça, donc ça, c'est beaucoup plus ancien, et alors, et ça ne s'est pas développé aussi vite, donc il y a une espèce de rapidité en Corse, là, ça fait presque peur, mais il y a des résultats qui commencent à arriver au niveau, je dirais même du niveau, comme tu disais, effectivement, de très bons joueurs corses, puisque vous avez eu récemment vos premiers titrés internationaux, c'est assez récent aussi ça.
Oui, en fait, je reviens chaque fois à l'image que j'aime bien, celle de la pyramide. Si vous avez une base, plus elle est large, plus le sommet est haut, forcément, et peut être haut. Et c'est ce qui est le cas aujourd'hui, où nous avons en Corse aujourd'hui, en particulier au niveau des jeunes, un réservoir considérable de bons joueurs. Alors, Nous ne sommes pas des milliards d'habitants, ce n'est pas l'Inde ou la Chine. Il est sûr que le génie, il a moins de chances de naître en Corse que dans des masses comme ça. Hein. Mais et de très très forts joueurs, dès le moment où il y en a beaucoup plus qui sont détectés, nous en avons. Nous avons déjà eu notre premier maître international formé sur place, qui est Michael Masson, qui avait connu des échecs à l'école. Mais nous avons énormément de jeunes qui ont été champions, vice-champions de France. Nous avons d'excellents résultats désormais dans toutes les catégories d'âge et dans toutes les catégories filles et garçons. Nous avons parmi les meilleurs compétiteurs. Je crois que lorsqu'on voit les championnats de France des jeunes, on s'en rend compte. La Ligue Corse est l'une des plus puissantes désormais, non seulement au niveau du nombre, mais au niveau qualitatif. Tout cela, nous l'avons fait parce que désormais, après ce rythme de croisière de développement de masse, de développement des clubs, puisqu'il y avait deux clubs, il y en a 10 maintenant, il y a 8 clubs de plus hein, qui couvrent toute la Corse, nous, avec la création de tous ces emplois, nous sommes passés aussi à une phase d'encadrement de notre élite. Et notre encadrement de l'élite, nous avons créé un pôle espoir insulaire qui s'appelle en Corse Scuola Corsa di l'Eccellenza, l'école corse de l'excellence, avec deux maîtres internationaux et deux maîtres filles qui l'encadrent. Cette école d'excellence, elle a pour but de détecter, après la détection de talents, d'encadrer une quinzaine de jeunes pour le haut niveau, ce qui est le cas. On les amène dans des compétitions internationales. Par exemple, l'an dernier, c'était avec Capelle-Lagrande, cette année, ce sera à Cannes. On fait des tournois sur place qui leur sont un peu réservés. On finance beaucoup de pédagogie, beaucoup de moyens pédagogiques. On a des moyens, puisque nous avons à la fois, par rapport à un mécénat privé et par rapport à une décision récente de l'Assemblée de Corse qui vient de voter une subvention, nous avons un budget de 100 000 euros qui est alloué à cette école de l'excellence et qui nous permet un encadrement qui est un encadrement hors pair qui permet à des jeunes vraiment de progresser grandement. Et avec un cahier des charges précis, parce que le cahier des charges que signent mes parents, c'est-à-dire que nous avons la responsabilité sportive. Les gens qui veulent jouer la démarche individuelle, ils ont parfaitement le droit, mais ils ne peuvent pas s'inscrire dans cette démarche sportive et structurelle qu'est l'école de l'excellence, puisque nous avons la maîtrise des choix sportifs pour les enfants. En ce qui concerne maintenant les autres niveaux, parce qu'il n'y a pas que des très très forts, il y a aussi des joueurs moyens, nous avons mis également au niveau des jeunes, nous avons mis un pôle intermédiaire avec une trentaine, une quarantaine de jeunes qui ont également une formation spécifique. Voilà, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment de notre trajectoire où nous avons désormais, nous occupons tout l'espace et nous avons la masse, nous avons l'élite qui est traitée spécifiquement, nous avons les compétitions qui sont pour la masse, puisque nous avons des tournois scolaires avec, comme celui sur le bassin Nicolas, où il y a 3 000 jeunes en même temps, mais tous les scolaires participent à des tournois de fin d'année, et puis nous avons également des grands rendez-vous internationaux. Donc on voit qu'on a véritablement un grand panel d'activités, et sans oublier également ce que nous développons de manière importante, c'est désormais notre site. C'est d'ailleurs le grand chantier sur lequel on est, le site de la Ligue Corse, qui devient déjà de plus en plus fréquenté, puisque nous avons habitué par 5 en un an sa fréquentation, en particulier à newsletter, avec une animation vidéo constante, avec un renouvellement constant de l'information, mais aussi avec une banque, mais désormais une base de données vidéo pédagogiques qui va grossir considérablement. J'annonce que dans l'année qui vient, nous serons en mesure de faire d'abord des streamings sur tous les événements échiquiens qui se passeront en Corse. Nous aurons notre propre studio de streaming avec notre propre moyen, moderne et tout à fait les plus performants. Et nous aurons également un site qui permettra à tous, et pas seulement à ceux qui sont dans la Ligue Corse d'ailleurs, hein, de se perfectionner, de progresser, quel que soit leur niveau, à travers beaucoup de moyens également pédagogiques et ludiques, hein, de progresser. Donc, c'est des chantiers qui viennent naturellement, comme la communication d'ensemble. C'est qu'on a un mensuel aussi, un mensuel qui est distribué gratuitement auprès des 8 000 scolaires qui ont échec à l'école dans l'année, parce qu'il y a des scolaires, il y a pas seulement les scolaires désormais, il y a aussi dans le secondaire, on est de plus en plus présent. Et là, ils ont un mensuel gratuit, donc ça, on le développe, il va même doubler de pagination cette année. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités. Je veux dire que même ce qui est assez extraordinaire, c'est que moi, c'est sûr que comme tout à l'heure vous le soulignez, j'en suis l'artisan à l'origine, mais j'ai lancé la chose, mais ma plus grande fierté, c'est d'avoir structuré et d'avoir aujourd'hui un encadrement extraordinaire avec des responsables, aussi bien bénévoles que professionnels, qui sont à un haut niveau et qui vraiment font fonctionner les choses. Désormais, moi, je suis surtout là pour, de temps en temps, m'exprimer, comme je le fais maintenant, ou pour intervenir lors d'une cérémonie d'ouverture d'un tournoi. Mais j'ai une activité qui est beaucoup moindre que ce qu'elle ne paraît. C'est-à-dire que vraiment, l'essentiel du travail aujourd'hui est fait par des gens sur le terrain qui ont des qualités incroyables d'organisation.
D'accord. Alors, Léo, une dernière question sur cet aspect historique et développement de l'île de Corse. Et en deuxième partie, ensuite, après notre pause musicale, puisque sur Fréquence Diagonale, eh bien, on pense à reposer nos auditeurs avec une petite pause musicale. Mais avant, on va une dernière question pour un peu généraliser le questionnement qu'on peut se poser sur le développement du jeu d'échecs en Corse, avec toi et avec la Ligue de Corse. C'est un sujet qu'on a vu d'ailleurs sur Fréquence Diagonale avec Jérôme Moffra, que tu connais très bien, qui a fait partie de tes listes au niveau national et qui lui s'intéresse en particulier au niveau de l'éducation nationale, de l'apport du jeu d'échecs en termes de compétences intellectuelles cognitives qui peut après se développer sur d'autres domaines, c'est-à-dire donc l'apport que peut donner le jeu d'échecs, pratique apparemment anodine d'un jeu comme ça qui en fait in fine fait apprendre des règles, fait apprendre un raisonnement, fait apprendre aussi la maîtrise du temps, tout autant que le respect de son partenaire de jeu, j'ai envie de dire, plutôt que d'adversaire d'ailleurs. Donc tout un tas de règles aussi sociales, tout autant que intellectuelles, tout autant que logiques. Je crois savoir, mais tu vas nous dire ça plus en détail, qu'il y a eu en Corse un essai universitaire pour mesurer comme ça ses capacités cognitives, des types de recherche qu'avait fait notamment Michel Noir. Michel Noir à Lyon avait fait une thèse sur ses capacités cognitives, et je crois qu'il y a eu un essai de démarche dans cette direction-là en Corse pour poursuivre ce travail de recherche sur la transposition qu'on pouvait faire entre une pratique comme ça intellectuelle sportive sur le jeu d'échecs, qui pouvait avoir un impact positif, bien sûr, sinon ça ne serait pas intéressant, mais sur l'apprentissage d'autres matières, comme alors évidemment les mathématiques, ou les problèmes au sens large, ou d'autres domaines.
Non, en fait, il y a peut-être une confusion entre l'université et ce qui a été fait réellement. En fait, il y a pas mal de professeurs en Corse qui ont fait leur thèse sur les vertus socio-éducatives des échecs.
Voilà.
Puisque comme le corps professoral est très atteint, très sollicité par cela, il y a eu pas mal de thèses qui ont été faites. Mais au niveau universitaire, par contre, ce que nous sommes en train de faire, d'ailleurs, nous intervenons déjà de manière importante au niveau du SWAPS, qui est donc au niveau de l'université, puisqu'il y a la matière échec qui est enseignée avec succès. Il y a énormément de participants. Nous allons progressivement créer avec l'Université de Corse un diplôme universitaire échec. Je crois que ce sera une première. On s'est donné le temps, puisqu'il faut quand même que ce soit sérieux et qu'en amont on fasse un certain travail, mais cela se fera. J'ai aussi un petit avantage. Le président de l'université m'avait désigné comme personnalité extérieure choisie pour être au niveau du conseil de la vie universitaire, qui débat un peu de toutes les avancées de l'université, de tous les choix y compris sportifs, de l'université d'ailleurs. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai plus de facilité, je dirais, à mieux connaître les réalités universitaires pour faire avancer ce dossier universitaire. Voilà, c'est à ce niveau-là. Mais c'est sûr que dès le moment où l'on développe les choses au niveau de la société, on est très présent. Moi, je vous invite, pour s'en rendre compte, à ceux qui ont un peu le temps, de passer 15 minutes à regarder le débat qui a eu lieu il y a quelques jours à l'Assemblée de Corse, en séance plénière, où tous les principaux dirigeants politiques de l'île ont parlé des vertus des échecs et de l'impact des échecs sur la société corse pour allouer justement la subvention dont je parlais tout à l'heure par rapport au Pôle Espoir et également une autre qui concerne le tournoi européen des jeunes qui a lieu au mois de juin. Mais écoutez, parce que c'est significatif, tous disent la même chose. Disent les échecs, c'est une activité qui permet à des jeunes, véritablement, dans une situation délicate, dans une situation de crise, de se responsabiliser, de se prendre en charge. Et c'est quelque chose qui est un rapport qualité-prix qui est incroyable. Donc, il y a de grandes opportunités aujourd'hui pour que les échecs se développent. Paradoxalement, en situation de crise, les échecs ont encore plus d'atouts. Et c'est ce que je regrette aujourd'hui. Mon grand regret aujourd'hui, et c'est vrai que quelque part ça me fait énormément bisquer, hein, je le dis sincèrement, de voir dans quoi s'engluent aujourd'hui certaines pratiques. C'est-à-dire, c'est toujours l'élitisme, c'est de ne penser qu'à ce qui existe, d'essayer de replâtrer les choses, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on peut faire développer les échecs. Les échecs, si on va le développer, c'est en suivant une stratégie de développement de masse. Et pour la faire, il faut remettre en cause ce qui est fait à l'heure actuelle. Il ne faut pas avoir peur, peut-être, de contrarier certains fondamentalistes, là aussi, ou certains pseudo-puristes des échecs. Les échecs, c'est un langage qui doit être parlé par le plus grand nombre et ne pas être resté celui d'initié qui s'arc-boute un peu, comme un peu très fier de maîtriser la chose. Voilà, au contraire, il faut utiliser ces initiés pour qu'ils fassent partager leur passion. Et tant qu'on ne fait pas ça, on ne peut pas avoir d'économie. Le budget de la Ligue Corse, je vais donner qu'un seul exemple pour comprendre. Le budget de la Ligue Corse est deux fois supérieur aujourd'hui à celui de toutes les autres ligues réunies. Alors, certains vont trouver la raison, c'est la Corse, et comme on doit être un peu tous mafieux, ça donne l'argent de la masse. Mais si on rentre dans une analyse réelle des choses, oui, ça a été souvent dit, hein, si on rentre dans une analyse des choses, c'est parce que nous avons cette réalité de terrain. C'est parce que tout le monde est concerné par l'activité échiquéenne et que dans une société en crise, c'est une espèce de refuge dans lequel on se dit, ah là, au moins, on peut stabiliser quelque chose. Donc il faut absolument jouer la carte échiquéenne, mais il faut la jouer à fond. Il ne faut pas rester frileux.
Et
Il
je
faut
crois que oui,
savoir
je crois que tu viens de
vraiment créer
dire,
quelque chose.
Léo, je crois que tu viens de dire un truc important, c'est que dans ta vision aussi, et comme tu l'as cité avec l'Assemblée de Corse aussi, tu as donc, il y a un atout échiquien pour la société, c'est la structuration du citoyen. C'est une des activités qui peut
Non,
contribuer à, comme tu
fondamental.
disais, responsabiliser l'être humain en devenir, qui va se mettre lui-même en face de ses responsabilités par rapport à
Tout
ses
à fait.
choix, par
Et
rapport au
c'est
coût.
incroyable comme ce jeu est magique.
Oui.
Ce sport, parce que mon jeu, j'emploie de moins en moins. Ce sport est magique. Il met en face, chacun d'entre nous, en face de soi, de lui-même. C'est-à-dire que on est véritablement, on a un atout considérable. Aujourd'hui, quelle est la grave crise? Au-delà, moi je ne parle pas de sensibilité politique, chacun ses options, mais il y a un tronc commun. Les gens se disent, le citoyen n'existe pas, ou il ne pèse pas, et il y a un système qui est faussé, il n'y a pas de véritable démocratie, il y a des dérives, etc. Tout le monde le dit, à juste titre, puisque c'est une réalité où on est dans une crise considérable. Donc, c'est même plus une crise, c'est une mutation de la civilisation, et donc on est en plein dedans. Donc, les échecs là-dessus disent, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est au lieu de donner de l'argent à fonds perdu pour des shows footballistiques qui doivent être uniquement des démarches privées, c'est bien, c'est des gens qui veulent qu'il y ait le jeu du cirque aujourd'hui, c'est le foot, c'est bien, mais sur le vrai sport, celui qui doit faire le citoyen, forger le jeune, lui apprendre véritablement des choses positives, à croire en lui, à respecter les autres, à l'entraide, la convivialité, ce vrai sport, c'est celui-là qu'il faut développer. Et les échecs, c'est magnifique pour cela. Il y a tout à faire. Moi, j'encourage les gens qui nous écoutent là, partout. Je sais que souvent, ils ont une vision complètement déformée de ce que l'exemple Corse, parce qu'il y a des préjugés par rapport à la Corse qui naissent de raisons historiques et de raisons, je vais dire, d'ouvrir les yeux. Si ce qui marche en Corse aujourd'hui fonctionne, ce n'est pas parce qu'on a un chromosome particulier en Corse. Ça veut dire que c'est la bonne voie qu'il faut suivre. Et moi, j'encourage tous mes amis, j'en ai, parce qu'il y a des gens extraordinaires dans le monde échiquien. Et pas seulement des gens qui ont voté à l'époque pour moi, hein. Il y en a de partout. Des gens à se remettre tous en cause et à travailler pour développer pour le plus grand nombre et à ne plus rester frileux, à sans arrêt à parler des inter ceci, des inter cela. On gère, c'est de la consanguinité, ça. Ça ne va pas loin. C'est toujours gérer la même chose et petit à petit, à force de gérer toujours la même chose, on en a de moins en moins. Il n'est que de voir l'érosion constante qu'il y a, en particulier au niveau du nombre de clubs et voire même maintenant aujourd'hui au niveau du nombre de licenciés. Je dis au passage que la Corse y est pour quelque chose parce que nous avons notre licence Corse. Ça fait qu'on n'a plus de licence B parce qu'on ne peut quand même pas s'organiser. Ça a un coût, hein, pour développer cette licence Corse et puis en même temps payer pour la licence B. Mais le nombre y est, le plus important, c'est la réalité. Par contre, les licences A, elles, vont continuer à se développer de manière considérable. Mais si je regarde aujourd'hui les chiffres des licences de la fédération, je me rends compte qu'il y a une régression parce que précisément, il n'y a pas cette politique sur le terrain, cette politique de développement. Logiquement, on devrait arriver à 500, 600 000 licenciés au niveau de la fédération dans les 10 années qui suivent si on suit d'abord la bonne stratégie. Et on en est loin donc.
On en est encore loin, effectivement. Alors, on va faire donc, Léo, une première pause musicale. Sur Fréquence Diagonale, on passe aussi de la musique libre, on aime beaucoup. Alors, aujourd'hui, ça sera un nouvel épisode de Triade que j'aime beaucoup, hein, un groupe sous Creative Commons, un groupe international qui fait des superbes compositions musicales sous licence libre. On se retrouve juste après pour continuer l'émission avec cette fois le calendrier régulier, hein, de la Ligue de Corse, et on va voir que c'est aussi extrêmement riche et intéressant. À tout de suite.
Thank you.
Et nous voici de retour, toujours avec Léo Battesti, après notre première, donc, et seule d'ailleurs dans cette émission, pause musicale, pour parler désormais maintenant de, dans cette deuxième partie, donc plutôt du calendrier corse. Alors, évidemment, on va peut-être commencer avec ce qui nous attend dans les jours qui viennent, puisqu'on fait ce podcast fin septembre et très bientôt, du 18-20 octobre et à Bastia et 22 octobre à Ajaccio. Ajaccio, donc, il y a le fameux circuit corse avec la venue des deux extraordinaires vedettes internationales et mondiales, hein, champion, ex-champion du monde. Donc, Vishwanathan Anand et Ouyifan, la féminine aussi, une des plus grandes joueuses du monde actuellement, qui est en train de rattraper Judith Polgar et qui est annoncée sur l'affiche, et c'est tout à fait juste, tout à fait bien vu. Les stars échiquiennes de 2 588 millions d'habitants, bien sûr, puisque c'est le champion de l'Inde et la championne de Chine. Alors donc, qui vont venir sur notre belle île de beauté en Corse pour ce fameux circuit corse. Alors, le circuit corse, d'abord, peut-être, c'est une petite histoire, et puis comment ça va se passer cette année et éventuellement les années suivantes. Et puis après, on enchaînera sur les autres grands événements qui a lieu encore toute l'année. Léo.
J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment la concrétisation par une manifestation de notre philosophie au niveau échiquien. Mêler la masse et l'élite. Depuis le début, nous avons fait cela. Et là, nous avons deux grands événements là, qui le permettent d'ailleurs. Nous avons d'abord l'Open Oscaro, qui va permettre la qualification pour la phase finale du Corsica Masters. Et puis, il y a le trophée BNP Paribas des jeunes, deux trophées, un à Bastia Ajaccio, doté de 30 000 euros de prix en nature. Hein. Ça va de consoles de jeux, en passant par des télés, par des iPads, etc. Il y a Bastia Ajaccio, qui sont réservés aux jeunes qui ont moins de 16 ans et moins de 2000 points Elo, et qui connaissent toutes les années un succès considérable, puisqu'il y a environ, sur Bastia Ajaccio, il y a en tout pratiquement, il y a 500 à 600 jeunes qui chaque année y participent. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et l'Open Oscaro, lui, il va vraiment alors être un spectacle. Alors, tu as cité, bien sûr, les deux grosses stars, hein, que je remercie pour leur présence, qui est une présence vraiment qui me touche. Anand est venu, c'est la 9e ou 10e fois qu'il vient, c'est vraiment un ami. Mais quand je dis le mot ami, je ne l'avoue pas, c'est quelqu'un avec qui j'ai des relations très particulières, qui vient souvent en Corse, qui prolonge, on discute, j'ai l'occasion vraiment avec lui de le voir, même pas seulement en Corse, dans le monde entier. Je l'ai rencontré plusieurs fois, soit à Londres, à Sofia, dans pas mal d'événements, et chaque fois on est vraiment très proches, et c'est quelqu'un, avec d'ailleurs son épouse Aruna, pour qui, même désormais son fils Akhilesh, pour qui j'ai une grande, grande affection, parce que c'est un grand monsieur, et puis il a une humilité, une gentillesse vraiment assez impressionnante. Et Ouyifan, je l'ai invité déjà une fois, c'était pour un match contre la championne du monde, hein, enfin, la championne d'Europe, quand elle était déjà championne du monde pour la première fois il y a quelques années à Porto Vecchio, avec qui on a noué vraiment de solides relations également, et ça lui faisait vraiment un plaisir. Elle était, je dois avouer qu'elle a remplacé, hein, je le dis tout de suite, parce que j'ai deux invités, Maxime, qui malheureusement au dernier moment, avec l'organisation bancale de la FIDE, qui décide tout au dernier moment, ils ont fait une des épreuves du Grand Prix au même moment que le Corsica de circuit, on ne le savait pas il y a quelques temps, et un mois avant on l'apprend. Bon, et bien heureusement que j'ai un relationnel avec certains grands champions qui me permet vite de trouver une solution, et je le regrette pour Maxime, parce que j'aurais bien aimé vraiment l'accueillir ici, mais je l'accueille souvent et j'aurai d'autres occasions. Donc ça va être eux sont invités directement pour les 16e de finale. Les autres devront être dans les 14 premiers de l'Open Oscaro. Ce ne sera pas facile d'être dans les 14 premiers, parce que je ne cite pas certains noms. Bon, je cite déjà celui de Saric, Ivan Saric, qui a gagné l'an dernier, qui sera présent. Mais il y a aussi de sacrées pointures qui ont annoncé leur participation. Tant que je n'ai pas la confirmation, je ne donne pas de nom, mais je crois qu'on va être surpris par la qualité des personnes qui vont être là. Et incontestablement, le Corsican Circuit est l'épreuve au niveau mondial, une des épreuves les plus importantes depuis longtemps, avec tous les meilleurs joueurs du monde y participer. Et ça confirmera, cette édition confirmera avec éclat l'importance de ce circuit pour les échecs. Voilà.
Oui, donc, alors,
on est très, très heureux. Vous savez que le Corsican Circuit, c'est pas moins de 80 bénévoles dans l'organisation. C'est ça le plus important. Oui. Ils sont organisés parce qu'il y a un accueil, bar, restauration, il y a vraiment de l'animation. C'est l'implication d'une centaine d'entreprises locales, et de quelques partenaires d'envergure autre d'ailleurs, puisque comme Oscaro, hein, qui est notre sponsor, mais aussi bon, BNP. Mais on a également vraiment un soutien massif au niveau. Alors, 60, exactement 65% de notre budget, c'est des fonds propres, c'est-à-dire qui proviennent de ces sponsors et qui proviennent des recettes. Donc, ce n'est pas rien. Dans les manifestations, c'est assez exceptionnel. On ne bénéficie pas pour notre part de certains types d'aides ou de fonctionnement ou de pourcentage de grosses structures. Nous, c'est tout ce qui a été créé par notre dynamique. C'est vraiment une dynamique échiquéenne pure. Et je tiens à le souligner parce qu'à un moment donné, tout ce qui naît des clubs, c'est quand même plus d'importance que ce qui naît, non pas ex nihilo, mais à partir d'autres réalités. Je tenais à le dire. Je crois que c'est important aussi de le dire. Il faut rester dans une logique sportive. Et cette logique sportive, c'est quand ce sont les clubs qui font les choses. Voilà.
Oui, alors, je voulais dire un petit mot sur ce circuit Corse, parce que j'y suis allé une fois il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus la date exacte. Et alors, c'est vraiment fabuleux parce que ça se joue toujours sur Bastia et Ajaccio. Et en plus, j'en ai profité pour faire le trajet en train. Il y a un petit train hein, qui fait Bastia-Ajaccio, et on passe dans les montagnes corses. En même temps, on bénéficie à la fois, ben oui, des paysages de Corse, tout en ayant un des tournois les plus beaux du monde. Hein, donc, c'est tout à fait extra. Et donc les matchs comme tu disais, du tournoi des stars hein, se fait dans un théâtre. Donc on peut suivre les parties comme ça se fait désormais hein, depuis les années 90 dans un beau théâtre, le théâtre de Bastia notamment pour ce
Et
qui est de
puis,
Bastia.
il y a une chose que je me permets d'ajouter, je fais un peu de communication,
Ouais.
c'est que beaucoup de joueurs moyens peuvent amortir leur voyage parce qu'il y a énormément de prix par Euro. C'est considérable. Il y a par catégorie Elo, je crois qu'il y a chaque fois 1500 euros de prix. Hein.
Oui.
Par exemple, entre 1005 et 1007, 1007 et 1009, etc. Donc, il y en a pas mal d'entre eux. Je sais que c'est pas l'objectif hein, de la plupart des joueurs qui viennent, hein, à
Bien
part les
sûr.
professionnels, c'est
Oui.
normal. Hein.
Ouais.
Mais souvent, ça permet à certains, ben, finalement, ils ont peut-être leur billet qui a été payé ou leur hôtel, et ce n'est pas plus mal. Et on a quand même, comme ça, une trentaine, quarantaine de joueurs qui, chaque fois, ont un prix et ça nous permet d'alléger leur déplacement. Voilà.
Voilà, en tout cas, c'est un magnifique événement. Donc, je pense qu'un joueur d'échecs devrait profiter hein, régulièrement, hein, une fois tous les. Peut-être, alors, si on est en Corse, il faut y aller tous les ans, bien sûr. Mais alors, si on n'est pas en Corse, bon, c'est peut-être un peu difficile, mais il faut y aller une fois tous les
Non,
3
et
ou
c'est
4
très
ans.
accessible. Ensuite, il y a des prix qui sont de plus en plus intéressants.
Oui.
Les hôtels nous font des prix également. Il y a des hôtels partenaires sur le site Corse Échecs. On peut voir les hôtels partenaires. Et puis, sur place, les gens qui veulent manger sur place, c'est pas du tout cher. On fait des petits prix très très bas, hein, puisqu'on est sponsorisé en plus on a des boissons gratuites, etc. Donc, on fait un petit bénéfice, c'est tout. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous invite à venir. Et puis, c'est aussi la convivialité. Et puis, c'est aussi l'ouverture sur l'autre. Et c'est important. C'est un peu aussi le but de ce Corsican Circuit. On a accueilli des centaines de grands maîtres depuis qu'on a organisé ça. Et on est très très heureux.
Et la musique corse aussi, hein. La
Ah,
musique,
la musique corse,
ah ouais.
voilà. Et puis, s'il le faut, même je me mets à chanter. Voilà, ça,
C'est la totale, c'est la totale.
Ça m'est arrivé
Alors,
d'ailleurs.
donc ça c'est le grand événement annuel, évidemment maintenant mondialement reconnu, connu, et qui a d'ailleurs Diagonal TV avait filmé hein, en 98, hein, je me rappelle très bien. On a un match, c'était un match qui était organisé, un des premiers événements entre Étienne Bacro et Judith Polgar.
Ah oui, tout à fait, qui avait eu un bel écho. Je crois que c'était une des premières grosses victoires de mon ami Étienne, qui, je crois, dans le souvenir,
C'était une des
moi,
premières grosses victoires et
j'étais très content. Judith était un peu moins contente.
oui, mais je crois aussi, Léo, que c'est le premier match d'échecs qui a été filmé et diffusé en direct, en streaming sur Internet, dans l'histoire d'Internet.
Je sais que le site de la Ligue Corse, du Open Corsica, maintenant qu'il n'existe plus, puisqu'on l'a mis intégré dans le. A été l'un des premiers sites dédiés à un tournoi d'échecs au monde,
Oui, tout à
également.
fait. Oui, c'est vrai.
C'est pas une époque qu'il n'y avait pratiquement rien. Hein. Donc on a toujours été essayé d'être à la pointe, et on le sera, peut-être cette année c'était un peu court, mais l'année prochaine on va l'être encore plus.
Oui. Alors, maintenant, on va parler du calendrier, puisqu'il n'y a, c'est pas, y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des événements en Corse toute l'année. Alors, des événements scolaires réguliers, on voit, on a vu hein, si on suit un peu l'actualité en Corse, moi c'est ce qui est mon cas, je suis ça avec grand intérêt, et on voit des grandes manifestations scolaires avec des chapiteaux entiers qui sont construits parfois, avec énormément d'élèves enfin, d'enfants qui donc viennent jouer ces tournois scolaires. Et puis bien sûr, il y a aussi maintenant énormément de tournois en été, hein, donc
Oui,
avec un grand
il y a, en
circuit
fait,
donc.
nous avons, bon, au niveau international, hein,
Hein. Ouais.
je me contenterai, j'ai parlé tout à l'heure déjà de tous les tournois qu'on fait au niveau inter, au niveau des clubs, au niveau des scolaires, mais au niveau international, on a 6 à 7 gros événements désormais. On a donc ce Corsican, et puis ensuite, je disais chronologiquement,
Avec les dates,
on
est-ce que tu
a
peux nous donner
ensuite
les dates en même
2
temps?
Open internationaux,
Oui.
celui de Calvi,
Oui.
qui est doté de 10 000 euros de prix
À
et qui a
quel...
des formes, ce qui est des fois rapide, des fois partie longue, ça dépend du calendrier un peu international ou autre, mais
Oui.
généralement il est de plus en plus en rapide, mais il a un bon succès. Je crois que je me demande si c'est pas Étienne qui a gagné le dernier. D'ailleurs, oui, c'est Étienne, je crois, qui avait battu Laurent ou un truc comme ça. Bref, je pense qu'il avait gagné le dernier tournoi. Ensuite, il y a l'Open de Portici.
À quelle
Alors
date?
avant c'était l'Open d'Ajaccio, l'Open de Portici. Alors la première édition l'an dernier, d'ailleurs Laurent dont je parlais tout à l'heure, Laurent Fraissinet, a dit, ça me fait vraiment grand plaisir dans une interview, que c'était l'Open où il avait considéré que c'était les plus belles conditions qu'il ait jamais eues. Hein. Il parlait pas des conditions financières,
Oui.
il parlait des conditions d'accueil et d'environnement. C'est vrai que c'est bord de mer, c'est dans un environnement vraiment prestigieux, dans un club. Vraiment qui est très bien conçu, hein, un truc de tourisme privé qui est très bien conçu avec des conditions d'hébergement pas chères du tout, et vraiment je conseille d'y participer. Ben, l'an dernier, si mes souvenirs sont exacts, mais je crois que c'est Laurent qui l'a remporté. Il y avait Romain-Edouard qui était pas loin, on avait eu le plaisir d'avoir Botvinnik, enfin on avait Pavel Trigobov, etc. On a pas mal de joueurs également ukrainiens. Donc on avait, je crois, 6 ou 7 grands maîtres l'an dernier pour cette première édition, c'était très bien. Ensuite, on a le match de Porto Vecchio. Match de Porto Vecchio, c'est toujours, maintenant ça va être, je crois, la 10e ou 11e fois que je le fais. On a fait jouer tout le monde là-bas, depuis Carlsen, en passant par Karpov, en allant jusqu'à tous les meilleurs joueurs, Wifan, Gilles Polgar, tous les grands joueurs du monde ont participé à ces événements. J'ai fait le match des légendes, Spassky, Karpov, par exemple, le match des espoirs qui, à l'époque, donc contre Carlsen et Radiabov. J'avais fait Wifan, j'avais fait également un match entre Maxime Vachelagrave et Ceballos, champion du monde vétéran, contre le champion du monde junior à l'époque. Donc voilà, on a chaque fois, bon, je me creuse la tête, parce qu'à un moment donné, j'ai fait même le match de l'amour entre Laurent et Almira. C'est le plus spectaculaire d'ailleurs, parce que les supporters étaient chauvins, ils supportaient tous Almira. J'espère que Laurent entendra cette émission, hein, comme ça il glissera un peu. Et il y avait donc beaucoup de choses, Étienne est venu, Vlad Tkachev est venu également. Vraiment, c'est un grand moment où il y a 500 enfants qui assistent à un grand spectacle. Alors, particularité que l'on fait en Corse, y compris pour la finale du Corsican Circuit, avec l'accord des joueurs, mais ils ont toujours tous été d'accord, mais à Porto Vecchio, ça fait partie du programme, les parties sont commentées ouvertes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de casque, il y a un commentaire basique, hein, qui est fait, qui est délivré, et donc les joueurs jouent, et tous nous disent, aucun d'entre eux n'a manifesté un moindre truc. Je crois qu'il y a que Laurent Fraissinet, une fois, qui avait mis des bouts de caisse, mais je crois qu'en dehors de lui, personne ne s'est jamais protégé contre ça, parce qu'on propose, hein, d'avoir même un casque ou autre, mais non, à un moment donné, ils sont dans le spectacle, et l'avantage, c'est qu'on peut faire suivre ça, parce qu'à Bastia, nous avons jusqu'à 800-900 spectateurs,
Oui.
et c'est sûr que 800-900 casques, on peut pas se permettre, hein. Donc, on a vraiment un résultat qui est probant. Au lieu d'enfermer les joueurs dans un aquarium, hein, on les met, je dirais, dans une situation où autour, ça va commenter. Alors, les puristes n'apprécieront peut-être pas, mais ceux qui aiment les échecs de combat et le spectacle, ils apprécient, d'autant que ce sont quand même des parties rapides, ce ne sont pas des parties longues. Hein. Je ne concevrais pas de le faire pour des parties longues, mais pour des parties rapides où ça fait un peu partie du spectacle.
Est-ce que tu peux
Bon.
Léo, très rapidement, nous reciter ces et tu vas continuer après, mais les dates dans l'année auxquelles ces événements ont
Il m'est
lieu.
impossible de dire la date parce que je sais que ça, c'est au mois de mai.
Oui.
Voilà. En avril, nous avons généralement Calvi, et dans la foulée, on fait ça pour que justement les personnes qui viennent puissent faire les deux avec le même trajet, hein.
D'accord.
Calvi et Portici,
Oui.
également. Et ensuite, en juin, nous avons le grand tournoi européen. Alors là, il prend de l'ampleur, parce que on profite du fait qu'il y a le tournoi scolaire de la Haute-Corse, où cette année, il y a eu plus de 3 200 enfants qui étaient présents. Et donc, on profite pour parallèlement faire un tournoi européen des jeunes, avec cette année, il y a eu 6 équipes européennes. L'année prochaine, on montera à 8 qui se rencontrent. Et donc, ce sont des équipes soit de pays, par exemple, l'an dernier, il y avait l'Italie, il y avait la Bulgarie, etc., soit de régions. Il y a des régions françaises. La Provence a gagné les 2 dernières éditions. Hein, donc, non, la dernière édition seulement. La dernière édition, il y a également la Bretagne qui est souvent venue, ou le Dauphiné-Savoie, qui y a encore. Donc, et puis, il y a également des régions même d'Italie, par exemple, le Piémont qui était venu, il y avait la Sardaigne, la Sicile. Donc, on essaie d'avoir un mélange entre des régions et des États. Et c'est très, 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 très intéressant, puisque la finale a lieu devant des milliers d'enfants, et ils se régalent. Il y a vraiment une communion entre tous ces jeunes qui est remarquable. Donc, ça, c'est un grand moment festif, des moyens considérables, puisqu'il faut, vous en doutez, il faut 80 arbitres, il faut 200 bénévoles pour encadrer, il y a 90 cars pour amener les enfants qui viennent du rural, hein, puisqu'il y a tous ceux de Bastia, mais aussi tous ceux de la Haute-Corse. Donc, ce sont des gros moyens. Hein, donc, il y a un budget global, d'ailleurs, qui avait été financé par des fonds européens jusqu'à l'an dernier, cette année, qui est financé directement par la région Corse. Voilà, ça c'est un gros événement. Et puis, il y a l'été, mais désormais, une série de tournois fabuleux. Hein. C'est vraiment fabuleux. Le mois de juillet, si vous ne savez pas où aller en vacances, avec les temps qui courent, il vaut mieux rester pas trop loin de chez vous, je pense. Et la Corse, c'est une terre d'accueil, où vous risquez rien, alors, si ce n'est de perdre aux échecs, peut-être. Alors, venez-y volontiers. En Corse, vous allez avoir, donc généralement, c'est vers le 12-13 juillet, ça dépend, le samedi, je dirais que c'est le deuxième week-end de juillet, vous avez le tournoi de Coin, ça qui compte pour le championnat de Corse de Blitz, avec chaque fois des grandes vedettes. Cette année, nous avons accueilli, par exemple, Costeniuk. Hein.
Ouais.
Et ça, c'est doté également de, crois, de 8 000 euros de prix. Et surtout, il y a des prix extraordinaires. Il y a ce qu'on appelle des prix zouts. Les prix zouts, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, parce que ceux qui viennent en Corse connaissent tous, c'est le jambon corse, mais c'est notre pâte à mer. Et c'est moins cher que le bon jambon en espagnol. Hein. Et c'est remarquable. C'est un jambon qui, puisque les cochons sont des cochons qui vivent au milieu des châtaigniers. C'est vraiment ô combien bio. Et ce prix zout, il y a des affrontements terribles, en particulier pour les prix vétérans, c'est quelque chose d'incroyable. Hein. Et parce que ne serait-ce que pour le plaisir de montrer ce prix zout qu'on a gagné, parce que c'est un très très gros jambon, il faut s'imaginer, vous pouvez manger pendant tout l'été tranquille, ensuite après en famille. Hein. Et puis vous avez, bien sûr, de dotation. Le premier, je crois, gagne 1 500 euros, je crois. Hein. Voilà. Bon, il y a quand même de dotation assez intéressante. Et puis, dans la foulée, le tournoi le mieux doté, c'est celui de Chamanach. Je vous parle de Chamanach et de Coin, c'est des villages de 250 habitants. Hein. Même pas. Je crois qu'à Chamanach, il y en a 150. Hein. Donc, ce sont des villages qui s'organisent. Il y a des mécènes, des partenaires publics, etc., qui s'organisent et qui financent un tournoi où il y a 10 000 euros de prix à Chamanach. Karpov n'a pas réussi à le gagner, c'est dire qu'il est relevé. Hein. Il avait terminé second lorsqu'il était venu. L'ancienne championne du monde, la russe, ça y est, son nom m'échappe. Tu vas, toi, connaisseur d'échecs, tu vas me donner son nom, qui était championne du monde avant Wifan.
Alors russe, c'est pas Thibaut Darnizé par exemple, ou non, c'est
Non,
pas.
non, non. Bah, tant pis, je m'excuse, je suis honteux de ne pas me rappeler parce qu'en plus elle est très sympathique. Bon, disons qu'elle avait terminé que cinquième, c'est dire le nombre de joueurs importants qui viennent. Mais c'est bien parce qu'il y a énormément de gens qui viennent, il n'y a pas aucune condition, hein, tiens, je vais te le dire, à part bien sûr la grosse vedette qu'on invite. Hein, autrement, il n'y a pas de condition. Il y a énormément de joueurs qui viennent, même en vacances. Je me rappelle que des joueurs italiens, des grands maîtres italiens, avaient joué par exemple le tournoi de Coin. C'était une surprise, je les ai découverts le jour. Ils étaient en vacances, ils sont venus, on a bien rigolé, on a mangé ensemble. Et c'est vraiment une grande fête. D'ailleurs, le soir, on est invité pour des repas, des soirées. Tout est gratuit. gratuit, pratiquement tout est gratuit. Et vraiment, c'est une convivialité exceptionnelle pendant l'été dans ces tournois. Voilà. Moi, je crois qu'on a, vous voyez, j'espère vous avoir présenté pas mal de choses qui vous amèneront, ceux qui n'êtes jamais venus dans notre île, à la visiter. Si vous aimez les échecs, je crois que vous n'allez pas le regretter.
Oui, ben je crois que c'est. Oui, on voit bien, et puis on voit la richesse hein, de ce que c'est. Alors, forcément, pour conclure, ce que, tout ce que tu me dis m'amène à une question. Je ne sais pas si on te l'a déjà posée ou si tu as déjà réfléchi. Forcément, c'est de se dire, mais pourquoi pas encore en Corse alors, c'est peut-être pour bientôt, je ne sais pas. Organiser, se proposer pour organiser un championnat de France, jeune ou toute catégorie, les fameux
Ah ben
comme les
j'ai
tout.
déjà organisé à Calvi un championnat de France, hein, qui je crois
Ouais.
qu'il avait beaucoup plu à l'époque. Hein. On n'avait peut-être pas les moyens qu'on avait aujourd'hui.
Oui.
Ça nous a coûté cher parce qu'on a dû mettre beaucoup de chapiteaux. Il n'y avait pas des infrastructures suffisantes pour accueillir, mais je crois qu'au niveau accueil, c'était considérable. Calvi s'y prêtait bien parce qu'il y a quand même une capacité hôtelière considérable. Hein. Et bon, en plus de la ville qui était bien. Honnêtement, nous avons privilégié l'activité open, qui est beaucoup plus intéressante parce qu'elle est plus démocratique et elle s'adresse au plus grand nombre et on continuera en ce sens. Mais il n'est pas dit que je ne fasse pas un gros événement d'ordre international. Mais ça, on le saura dans quelques mois. J'aurai peut-être le plaisir de vous l'annoncer. Mais en dehors de ça, ce qui compte surtout, c'est de créer des événements qui correspondent au prolongement de notre la philosophie, de notre action au niveau des échecs. Je le répète, c'est vraiment un leitmotiv. C'est ce que je pense dur comme fer. Et je crois que tout ce qui se passe le prouve. Il faut penser en termes de développement sportif pour le plus grand nombre. Il faut penser au plus grand nombre dans toute la technique au niveau des échecs. Parce que tout est lié. Ce qui compte, c'est le plus grand des paradoxes que j'ai trouvé depuis que je suis aux échecs. Je l'ai souvent dit, mais je le redis. C'est que des gens qui sont en contact d'une activité où la stratégie a autant d'importance, certes, sans tactique, on ne parvient à rien, mais des gens qui n'ont que de la tactique et ne savent pas où ils vont, généralement, ce ne sont jamais des très très grands joueurs, même si la tactique a son importance. Eh bien, là, au niveau politique échiquéen, il n'y a que de la petite tactique, il n'y a pas de stratégie. Qu'est-ce que c'est que le développement des échecs, si ce n'est essayer d'irriguer le plus possible une société en permettant aux autres d'éprouver le même plaisir qu'on éprouve soi-même, parce qu'on éprouve un plaisir immense. Moi, je ne ferais pas ça si je n'avais pas la passion des échecs et des joueurs d'échecs. Hein. Et je crois que c'est ça, moi, le message que je voudrais lancer. Il faut que les politiques échiquiennes s'assuivent parce que c'est catastrophique ce qui se passe aujourd'hui. Au niveau de la FIDE, n'en parlons pas. C'est vraiment quelque chose qui est atroce même. Moi j'ai honte, d'ailleurs je n'en parle jamais de la FIDE. Je m'excuse d'en parler, puis vraiment je me contredis là. D'habitude j'évite d'en parler parce que
Oui.
c'est atroce. C'est atroce, le monde international, bon il n'y a pas que malheureusement au niveau des échecs, mais c'est catastrophique. C'est le lieu de corruption, le lieu de petits pouvoirs, de petits... C'est honteux. Et donc, il faut surtout s'auto-organiser sur place. C'est un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On se retourne un peu vers la citoyenneté le plus proche du terrain. Eh bien, les échecs, c'est la même chose. Je crois qu'on n'échappe pas aux évolutions du monde. Et les évolutions du monde, il faut les accompagner. Les échecs, c'est un moyen important. Ça, c'est pas vrai, hein. C'est pas les échecs qui vont sauver l'humanité, mais vont contribuer à adoucir les mœurs et surtout à faire plaisir à tant d'enfants. Voilà.
Ah
Merci
ben
en tout cas.
c'est une magnifique conclusion. Merci hein, beaucoup Léo
Merci.
de ta participation hein, sur ce spécial Corse dans Fréquence Diagonale. Et on a vu donc que ça nous donne tous envie de retourner, pour moi retourner, parce que j'y suis déjà allé plusieurs fois, en Corse. Et à vous, ben, j'espère ben, de découvrir un peu eh bien, tout ce qui se fait en Corse si vous ne l'avez pas encore vu. Y aller au moins une fois et aller sur le site de la Ligue de Corse, donc c'est corse-échec.com. Et vous aurez l'affiche du Corsican Circuit et toutes les informations concernant tous les événements qu'il y a en Corse et comment aller rejoindre l'île de beauté, l'île de Pasquale Paoli et de Napoléon Bonaparte. Voilà, merci beaucoup Léo.
Merci, merci.
Et je vous dis
Au
au
revoir.
revoir et je vous laisse avec notre générique fétiche. Au revoir.